Lors de la 32e édition du FIGRA, Festival international du grand reportage d'actualité et du documentaire de société, Julie Dungelhoff, grand reporter à France 24, et Alijani Ershad, journaliste aux Observateurs France 24, ont présenté une enquête qui établit l'utilisation de cartouches de chasse à l'encontre des manifestants iraniens rassemblés au cri de « Femme, vie, liberté », à la suite de la mort de Mahsa Amini en 2022. Cette enquête de 2 ans révèle que les cartouches de chasse utilisées lors de la répression de ces manifestations proviennent de l'entreprise de munitions franco-italienne Chedid et que ces munitions sont largement disponibles en Iran malgré les sanctions européennes en place depuis 2011. Julien et Théo, étudiants à l'Université d'Artois, ont rencontré Julie Dungelhoff après la projection du documentaire « Répression iranienne, munitions françaises » au FIGRA. On écoute leur interview après les premières minutes du documentaire.
That erupted over the death of 22-year-old Mahsa Amini, who died while in police custody after not covering her hair properly.
Les manifestations se sont rapidement propagées à une centaine de villes.
Les forces de sécurité ont ouvert le feu sur des participants.
Students and activists have shared details of brutal abuse and torture.
En Iran, la répression débutée à l'automne 2022 fait des centaines de morts, des milliers de blessés. Les forces de sécurité tirent sur les manifestants, entre autres à coups de fusil à pompe.
J'ai été touchée par plus de 200 petits plombs. Mon bras a été comme coupé en deux.
Pendant des mois, nous avons enquêté à distance, récolté des témoignages de victimes, analyser les blessures et les armes utilisées contre les manifestants. Parmi les munitions retrouvées, celle d'une marque franco-italienne. Chedid.
C'est un des leaders mondiaux de la cartouche, oui.
Comment ces munitions franco-italiennes se sont-elles retrouvées en Iran, placées sous sanctions internationales?
On est en droit, évidemment, de se questionner sur la bonne foi d'entreprises qui vont se défendre en disant « nous ne savions pas, nous ne connaissons pas ».
On peut l'utiliser, ce n'est pas non plus pas une arme militaire, hein. Ce n'est pas des obus 155. Hein.
Enquête sur une société très discrète.
Ce genre d'informations.
Je m'excuse, mais je ne pars pas avec les journalistes.
L'idée, en fait, en tant que journaliste, c'est de documenter le mouvement Femmes, Vie, Liberté en Iran et notamment la répression. Impossible pour nous d'avoir un visa ou une accréditation pour pouvoir travailler en Iran, donc on observe toutes les vidéos qui sont postées sur les réseaux sociaux. Et on observe qu'il y a énormément de blessés parmi les manifestants. Et donc on commence à analyser le type d'armes qui sont utilisées, on se rend compte qu'il y a des fusils à pompe et que des cartouches de chasse sont tirées sur les manifestants. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on commence à demander aux internautes de nous envoyer des photos de ces cartouches, de ces armes, de ces blessures, et qu'on se rend compte à ce moment-là, un peu par hasard, qu'il y a une marque franco-italienne parmi les cartouches utilisées contre les manifestants.
Du coup, c'était vraiment pas prévu au début de parler de la présence de munitions françaises dans le reportage. Enfin, c'était un autre travail qui a déboulé sur ça.
L'idée, c'était de documenter la répression en Iran, documenter la manière dont les personnes perdaient leurs yeux, étaient polycriblées, certains mouraient. Et au fur et à mesure, on s'est rendu compte, donc, comme je vous le disais, que parmi les cartouches utilisées, on trouvait énormément de cartouches françaises.
Donc, vous avez reçu des images suite à un message sur les réseaux sociaux. Et comment s'est organisée votre vérification des informations que vous avez reçues ?
Alors évidemment, en tant que journaliste, on a vraiment un devoir de vérifier toutes les informations qu'on reçoit, de multiplier les sources. Et par conséquent, par exemple, si on recevait des photos de la ville de Yazd, on s'assurait d'abord que, un, y a-t-il vraiment eu une manifestation ce jour-là à Yazd ? Y a-t-il réellement eu une manifestation à cet endroit-là de la ville de Yazd ? On vérifiait les vidéos qu'on voyait de ces manifestations de la ville de Yazd. On questionnait plusieurs manifestants pour vérifier qu'en effet, tous les témoignages concordaient. Et à partir de ce moment-là, eh bien voilà, on a fait un travail vraiment de fourmi, de géolocalisation. On a travaillé avec plein d'outils d'open source intelligence pour pouvoir documenter cette répression à l'œuvre en Iran.
Vous avez énoncé le fait que c'était très difficile d'avoir un visa, notamment pour l'Iran. Et du coup, je pense que c'est très difficile d'exercer le métier de journalisme là-bas. Est-ce qu'on pourrait parler, dans ces pays très opprimés, d'une sorte de journalisme populaire ?
Oui, tous ces gens qui ont répondu à notre appel à témoins, c'est très courageux de leur part de nous avoir envoyé ces photos. Et donc, évidemment, et c'est vraiment ce que nous ont dit les témoins et les victimes avec lesquelles nous avons pu parler, c'est que eux documentaient eux-mêmes leur répression, enfin la répression qu'ils subissaient, pour pas qu'il y ait un trou noir médiatique. Et c'est pour ça que c'était important pour nous de faire cette enquête et de la faire sur un média aussi important que France 24, c'était pour que cette répression ne tombe pas dans l'oubli et que ce mouvement ne tombe pas dans l'oubli. Et par conséquent, voilà, c'était très courageux et c'est grâce aux témoignages et aux vidéos de ces, Erchad les appelle les journalistes citoyens, qu'on a pu créer cette enquête et diffuser cette enquête.
Vous avez parlé de trou noir, donc pour garder la métaphore de l'espace, vous avez été confronté à la nébuleuse Shedid et ses informations cryptiques. Comment est-ce que vous avez fait pour déjà vous protéger en faisant ce documentaire de toute poursuite judiciaire? Et comment est-ce que vous avez réussi à creuser dans cette sphère fermée?
Alors ça aussi, ça prend du temps, vous l'avez dit, hein, y a vraiment un réseau chez DIT. On l'a simplifié au minimum dans le reportage pour une meilleure compréhension du public, mais en réalité, chez DIT, c'est vraiment une des entreprises d'un groupe très puissant à travers le monde. Et donc, moi, je suis avocate de formation, donc ça aide pour pouvoir analyser ces documents, vérifier que juridiquement, tout est juste. Mais voilà, on a vraiment, à chaque fois qu'on avance quelque chose dans le documentaire, eh bien, on vérifie trois fois, est-ce qu'on peut vraiment dire ça? Est-ce qu'on peut vraiment utiliser ce mot? Et donc voilà, ça demande vraiment un travail de documentation qui est très long. Ça demande de vérifier plein de sites commerciaux, de questionner énormément de gens, énormément d'experts, etc. Et donc voilà, donc on a travaillé vraiment comme des petites fourmis pendant très longtemps dans un petit bureau, beaucoup trop petit, à relire et relire des documents. Et puis après, avant la diffusion, on a travaillé avec un avocat qui a tout vérifié, qui nous a questionné, quand tu dis ça, pourquoi? Et donc au fur et à mesure du travail avec cet avocat, il m'a dit, vous êtes blindé, vous ne pouvez pas être poursuivi en diffamation, et quand bien même ils essaieraient, vous gagnerez.
Du coup, vous avez parlé de diffamation. On peut penser aussi aux affaires Bolloré qui utilisent beaucoup l'arme financière pour censurer. Est-ce que c'est quelque chose qui fait vraiment peur aujourd'hui, notamment aux médias d'investigation, aux journalistes? Et est-ce que c'est quelque chose de commun, malheureusement?
J'ai la chance de travailler pour le service public. Et donc, je me sens très, très libre de travailler sur ce type d'enquête. Et j'ai la chance, justement, de travailler pour une chaîne comme France 24 qui s'intéresse, évidemment, à ce qui se passe en Iran, qui s'intéresse au sort de ces femmes iraniennes et qui libère une journaliste en lui disant « Ok, ça vaut le coup, ton enquête, on y croit. Prends le temps qu'il te faut pour sortir un truc béton et on va y aller. » Donc voilà, moi, j'ai cette chance-là dans le service public. Je sais que ce n'est pas le cas dans certaines chaînes privées pour mes confrères.
À la fin du reportage, vous vous retrouvez face à un mur. Plus de réponses, plus d'avancées possibles. Vous êtes confronté à l'État qui ne vous répond pas. Est-ce qu'aujourd'hui, donc, après ce reportage, vous avez des avancées, des nouvelles informations?
J'espérais, quand j'ai entendu qu'il y avait une question au gouvernement qui était posée, que le ministre des Affaires étrangères puisse donner un peu plus de réponses. En réalité, sa réponse n'était pas totalement satisfaisante à partir du moment où on prouvait l'inverse dans notre reportage de ce qu'il répondait. Donc malheureusement, il n'y a pas d'avancée à ce niveau-là. Mais maintenant, voilà, moi j'estime que j'ai fait mon travail. Avec Erchad, on a livré cette enquête. Il y en a d'autres qui s'en emparent, que ce soit des avocats, des organisations internationales, et peut-être, qui sait, la France sans qu'on le sache. Et voilà, maintenant c'est à eux de jouer. C'est plus un travail de journaliste, c'est un travail de juriste.
C'était un entretien avec Julie Dungelhoff, co-réalisatrice de l'enquête Répression iranienne munitions françaises pour France 24. Un film documentaire qui était en lice dans la catégorie moins de 40 minutes lors de la 32e édition du FIGRA, Festival international du grand reportage d'actualité et du documentaire de société, qui s'est déroulé du 1er au 5 avril dernier à Douai. Interview réalisée par Théo et Julien, étudiants de l'Université d'Artois à Arras, et illustrée par les premières minutes du documentaire.